Vous écoutez, on lit pour vous.
L'art subtil du laisser-faire, un texte de Sylvia Galipo, paru le 4 janvier 2026 dans La Presse. Avant de lever le nez, lisez ce qui suit. Parce qu'aussi simple qu'elle puisse paraître, cette idée de laisser les autres s'en faire avec leurs affaires pour se concentrer sur ses propres moutons est loin d'être folle. Même si elle n'est pas révolutionnaire, encore moins magique. Le point avec des experts québécois en la matière. L'autrice de ce guide, vendu à des millions d'exemplaires, traduit en français dernièrement, est Mel Robbins, experte autoproclamée, sortie de nulle part et surtout revenue de loin. Sans emploi, endettée jusqu'au cou, avec un mari en faillite, et alors qu'elle peine à se tirer du lit le matin, elle accouche de la théorie des 5 secondes. En clair, arrêtez de réfléchir à vos problèmes et agissez. 5, 4, 3, 2, 1, debout. On démarre la journée. Elle publie un livre sur le sujet et c'est un succès immédiat. Une idée qui change des vies? La règle des 5 secondes a changé ma relation avec moi-même. Let them a changé ma relation aux autres, résume la conférencière dans l'introduction de son dernier best-seller, où elle revient en long et en large et avec moult exemples sur ce concept qui a changé non seulement sa vie, mais aussi celle d'Oprah Winfrey, entre autres célèbres adeptes. Pour résumer, votre patron vous microgère? Laissez-le faire. Votre belle-mère vous juge? Idem. Et ainsi de suite. On reconnaîtra là le style de l'autrice qui répète, dissèque, illustre sa théorie sur plus de 300 pages et avec quantité de faits vécus auxquels on vous met au défi de ne pas vous identifier. Parce que l'humain est ainsi fait. Il veut être aimé et il a peur de ne pas l'être. D'où cette propension instinctive à s'en faire, justement. Le raisonnement? Vous ne pouvez pas contrôler les autres, encore moins ce qu'ils pensent. Alors cessez d'y perdre vos énergies. Contrôlez-vous plutôt. C'est ici qu'entre le deuxième volet du « let them », à savoir « quels sont vos besoins ?» Exprimez-les et agissez en conséquence. Vos amis de jeunesse ne vous ont pas invité à un événement? Laissez-les faire. Les amitiés s'estompent à l'âge adulte. Consacrez votre temps à d'autres priorités, notamment des amitiés nouvelles et plus solides. Énième exemple. Votre conjoint boit trop? Exprimez vos inquiétudes. Et voyez à terme ce qui en découle, écrit-elle. En gros, les gens ne changent que s'ils en ont envie. Si un conjoint ne fait pas d'efforts, mérite-t-il que vous en fassiez? Ce sera l'une des expériences les plus libératrices que vous ayez vécues, résume-t-elle, entre autres promesses alléchantes. Plus loin, le bonheur, le succès et l'argent n'attendent que vous vous atteliez sérieusement à la tâche. En plein épuisement professionnel, Nancy Foucault cherchait un livre qui allait la sauver. Non, ça n'a pas été « Let them », même si elle a roulé jusqu'à Plattsburgh l'an dernier pour mettre la main sur son précieux exemplaire, introuvable alors ici. Mais ça m'a appris le détachement et à reprendre pouvoir sur moi. Dit autrement, ça m'a grandé, résume celle qui a transformé le « let them » en puissant, qui mange de la M. Fini sa manie d'essayer de tout contrôler, au boulot, en amour, comme à la maison. On est à l'ère du burn-out généralisé. Il y a trop d'excitation, de bruit, de gens qui jugent, observe la publicitaire Chris Bergeron. Cela fait qu'on a envie un peu de décrocher. d'où le succès du phénomène qui s'apparente à un certain retour de la pensée stoïcienne, très en vogue auprès de plusieurs influenceurs. Et il y a un fil commun. Travaille sur toi, occupe-toi de tes affaires. Des fondements théoriques? Certes. Mais tout cela est-il bidon? Négatif, répond Stéphanie Austin, professeure titulaire en comportement organisationnel à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, et directrice du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les processus motivationnels. Mel Robbins, dit-elle, vulgarise ce qu'on connaît en recherche depuis très longtemps. Ce qu'il y a derrière ça, c'est la théorie de la motivation. C'est bien connu. Notre énergie est hypothéquée quand on investit dans des choses que les autres valorisent, dit-elle. Lire, et non qu'on valorise soi-même. Le secret, prendre conscience de notre pouvoir dans notre zone de contrôle. Ce qui a du sens dans notre vie, le fameux « let me ». Avis aux personnes contrôlantes. Plus on tente de contrôler les gens, plus ils vont faire un pas de recul, poursuit la psychologue qui travaille sur l'autodétermination, soit l'art d'informer, let me, sans contrôler, let them. C'est un bon bouquin pour comprendre pourquoi on veut tout contrôler, avance-t-elle. À noter que cette idée du laisser-faire semble avoir des fondements dans la philosophie de la pleine conscience, signale Bassam Khoury, directeur du McGill Mindfulness Research Lab. On encourage l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Mais cela ne doit pas s'accompagner d'un désengagement, nuance le psychologue. Un enfant traverse dangereusement la rue? Éthiquement, il faut intervenir là où on peut avoir un impact, là où on a un rôle ou une responsabilité. Le fameux « let me », selon nos valeurs, mais aussi nos responsabilités et capacités. Un bémol, enfin, quant à toutes ces affirmations et autant de promesses quasi magiques ici énoncées. Car si Mel Robbins maîtrise certes l'art de la formule, elle est aussi maître en généralisation et en simplification. Cela crée ce qu'on appelle en science un optimisme cruel, dénonce Sonia Lupien, grande spécialiste du stress humain au Québec. La théorie a l'air si simple et si extraordinaire, dit-elle, en allusion aux nombreuses affirmations extraordinaires saupoudrées ici et là, que si les résultats ne suivent pas le fameux bonheur, le succès et l'argent, à la longue, on induit de l'anxiété chez les gens. Si on était si simple, la vie irait pas mal bien. Morale, en cette nouvelle année, laissez-les faire, certes, mais avec un grain de sel. C'était L'art subtil du laisser-faire, un texte de Sylvia Galipo, paru le 4 janvier 2026 dans la presse.
Des jeunes de la DPJ sont encore bien démunis à leur sortie. Un texte de Jessica Nadeau, publié le 12 décembre 2025 dans Le Devoir. Malgré des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse, les jeunes qui sortent du réseau sont encore souvent démunis pour faire face à la vie adulte, constatent plusieurs organismes qui travaillent avec eux. Avec son hoodie et ses petits souliers, Michael n'est pas équipé pour affronter le froid glacial qui s'est installé trop tôt cet hiver. La semaine dernière, il s'est fait des engelures aux cuisses. Comme plusieurs autres jeunes issus de la DPJ, il s'est retrouvé à la rue à 18 ans. 2 ans plus tard, grâce à l'aide d'un organisme communautaire, il a réussi à se trouver un appartement subventionné où il vit toujours. Mais à 25 ans, il connaît une situation financière précaire. Jade, dont nous taisons le véritable prénom pour lui éviter d'autres ennuis, en arrache aussi. À peine sortie du réseau de la protection de la jeunesse, elle y est revenue comme parent, sa fille de 5 ans grandissant dans une famille d'accueil. Pour réussir à payer son appartement, qui coûte 2 fois plus cher que ce qu'elle reçoit de l'aide sociale, la jeune mère de 28 ans arrondit les fins de mois en vendant son corps. Et lorsque ça ne suffit pas, elle sous-loue sa chambre pour quelques semaines et va vivre dans un mini-campement qu'elle s'est construite dans un parc, à l'abri des regards. Michael et Jade, rencontrés dans un immense entrepôt de l'est de Montréal, font partie des quelques 9000 jeunes qui ont pu obtenir des vêtements d'hiver offerts par Équipe Jeunesse, un organisme créé par Nancy Odette, elle-même une ancienne de la DPJ, pour aider les jeunes qui vivent en situation précaire et offrir un peu de chaleur à leur corps et à leur âme. Des jeunes mal préparés. Très investie auprès des jeunes de la DPJ et de ceux qui en sortent, Nancy Odette estime que ceux-ci sont encore très mal préparés à la vie adulte, malgré les changements apportés à la loi sur la protection de la jeunesse et la bonification du programme qualification des jeunes, PQJ, qui vise à mieux les outiller et à les accompagner dans leur passage à la vie adulte. Des jeunes qui quittent les centres jeunesse avec leur sac poubelle le jour de leurs 18 ans, elle en voit encore. Les gens pensent que c'est réglé, mais non, affirme-t-elle. Oui, il y a une certaine amélioration. Les gens sont plus conscientisés. On doit fournir un plan de transition à tous les jeunes. Malheureusement, dans la pratique, ça ne semble pas suffisant ou adéquat pour les jeunes. Les jeunes se ramassent en centre jeunesse parce que leurs parents n'ont pas réussi à assurer leur sécurité et leur développement. Et ils entrent dans un système qui ne le fait pas plus. C'est être doublement condamné. Marc-André Bélanger, directeur général du regroupement des Auberges du Cœur. Quels que soient les efforts déployés, certains refusent en effet de se laisser aider par le réseau en raison du lien de confiance qui est brisé, constate Mme Odette. Certains jeunes ont tellement souffert durant leur placement qu'ils ne veulent que partir. Ils ne veulent plus jamais avoir affaire à ce système-là. Tant qu'on va continuer à être dans la répression, on va avoir des jeunes qui vont préférer aller vivre dans la rue qu'être aidés par ce système-là. Selon elle, l'argent investi dans le réseau pour les soutenir à leur sortie aurait plutôt dû être injecté dans le communautaire qui réussit mieux avec les jeunes. Ressources d'hébergement pleines. Dans le communautaire, les ressources d'hébergement qui accueillent les jeunes débordent. L'organisme Dans la rue, qui estime qu'environ la moitié de sa clientèle est passée par la DPJ, refuse de plus en plus de demandes faute de place. Des intervenants du PQJ aiguillent vers lui des jeunes qui ont besoin d'hébergement d'urgence ou de logement social, explique sa directrice générale adjointe Marie-Noëlle L'Espérance. Mais plusieurs arrivent par leurs propres moyens. Après s'être retrouvés en situation d'itinérance parce que leur plan de transition ne se déroulait pas comme prévu. Elle en voit aussi qui sont juste tannés des interventions et qui recherchent la liberté à tout prix, quitte à vivre dans la rue. Aux Auberges du Cœur, qui accueillent aussi beaucoup de personnes issues des centres jeunesse, on comptabilise plus de 6000 refus par année, soit 3 fois plus que d'admissions. Si la transition vers la vie adulte est une période difficile pour tous, la marche à gravir est encore plus haute pour ceux qui sortent du réseau des centres jeunesse, explique le directeur général du regroupement des Auberges du Cœur, Marc-André Bélanger. Le plus grand défi auquel ils font face, c'est l'autonomie. Ils sont capables de faire leur lit au carré, mais ils sont incapables de cuire des pâtes et demandent encore aux intervenants la permission pour aller aux toilettes. Il a beau être critique du PQJ, M. Bélanger reconnaît que c'est tellement mieux qu'avant. Mais, selon lui, l'État faillit encore à sa tâche. Les jeunes se ramassent là parce que leurs parents n'ont pas réussi à assurer leur sécurité et leur développement, et ils entrent dans un système qui ne le fait pas plus. c'est être doublement condamné. À Santé Québec, on rappelle que le programme qualification des jeunes a élargi son offre depuis 2021 et qu'une instance de coordination nationale pour la transition vers la vie adulte a été mise en place l'an dernier. Plusieurs initiatives soutiennent désormais la stabilité résidentielle, incluant des projets d'habitation, le supplément au loyer jeunesse, le soutien à la persévérance scolaire et la possibilité de demeurer en ressources intermédiaires et de type familial jusqu'à 21 ans, dans certaines conditions, répond la direction des communications. Nous poursuivrons la consolidation de ces avancées tout en renforçant le changement de culture institutionnelle en cours. C'était « Des jeunes de la DPJ sont encore bien démunis à leur sortie », un texte de Jessica Nadeau, publié le 12 décembre 2025 dans Le Devoir.
Pax Transactionalis, ou quand la géopolitique devient une télé-réalité. En sous-titre, dans un monde saturé de signaux contradictoires comme le nôtre, qui décide de ce qui est réel? Le texte est signé par Gilles Zedima, en deux mots, Z-E-H, et Dima, D-I-M-A. Le signataire est auteur indépendant. Texte publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026. Imaginez un jeu d'échecs où l'un des joueurs passait son temps à crier, renverser l'échiquier et à changer les règles à chaque tour, tout en produisant en direct un commentaire épique sur sa propre grandeur. Le véritable enjeu n'est plus de gagner la partie selon les anciennes conventions, mais de saturer l'esprit de l'adversaire au point de la rendre incapable de penser deux coups à l'avance. Bienvenue dans l'ère de la Pax Transactionalis, une forme émergente d'ordre international dans laquelle la puissance dominante ne cherche plus à stabiliser le système par des règles, mais à le dominer par la saturation cognitive, l'imprévisibilité et la dissonance manufacturée. Le champ de bataille a changé. Il n'est plus seulement territorial ou économique. Il est désormais mental, logé dans l'écran de nos téléphones intelligents et dans le flux continu de l'information où se redéfinit ce qui est réel, normal et possible. Du soft power au pouvoir brut de la perception. Pendant des décennies, la puissance américaine s'est pensée et s'est exercée à travers un concept séduisant, le « soft power » ou « pouvoir de l'influence ». Il s'agissait d'attirer, de persuader, de structurer l'ordre international par l'exemple de valeurs, d'institutions et de récits présentés comme universels. Cette grammaire de la puissance est aujourd'hui en crise. Une mutation profonde est à l'œuvre. L'influence ne cherche plus prioritairement à convaincre, mais à désorienter. Elle ne vise plus l'adhésion à un ordre libéral, mais l'imposition d'un nouveau logiciel international fondé sur la logique du « deal » transactionnel, de la mise en scène permanente et de l'instabilité calculée. Il ne s'agit pas ici de réduire cette évolution à la psychologie ou au style d'une administration particulière. Cette logique, certes radicalisée à certains moments récents, révèle une transformation plus large et plus structurelle de l'exercice de la puissance à l'ère des plateformes, de l'économie de l'attention et de la communication en temps réel. Deux mécanismes médiatiques centraux président à ce réalignement cognitif forcé. L'armement de la dissonance cognitive qui détruit le sens, et la saturation par le spectacle qui détruit le temps stratégique. L'armement de la dissonance cognitive, détruire le sens partagé. La première stratégie est la plus insidieuse. Elle consiste à rendre la réalité géopolitique volontairement illisible selon les cadres d'interprétation hérités du multilatéralisme et du droit international. L'objectif n'est pas tant de produire une nouvelle cohérence que de saper la possibilité même d'une lecture stable du réel, ce qui paralyse la capacité d'anticipation des adversaires comme des alliés. Cette tactique repose sur la production systématique et publique de contradictions flagrantes, des déclarations d'escalade extrême suivies de retraits unilatéraux soudains, des sanctions maximales imposées à un partenaire puis levées après une négociation spectaculaire, des engagements solennels en faveur des alliances aussitôt relativisées par des menaces tarifaires ou sécuritaires. Pris isolément, chacun de ces gestes peut faire l'objet d'une analyse rationnelle. C'est leur enchaînement erratique, délibérément contradictoire, qui produit un effet de brouillage cognitif durable. Comme l'a récemment souligné Le Devoir dans une analyse de Fabien de Glise, cette pratique instille, citation, un état permanent d'incertitude, d'incompréhension et d'inquiétude. Fin de citation. Les diplomaties, les marchés et les rédactions sont happés par une quête sans fin de sens. Que faut-il prendre au sérieux? Qu'est-ce qui relève de la posture, de la menace réelle ou de la simple diversion? Le but n'est pas tant de gagner un débat sur les faits, mais de rendre les faits eux-mêmes instables et toute contre-argumentation cohérente impossible. On ne conteste plus un cadrage, on dissout la crédibilité du cadre lui-même. Le spectacle et la saturation cognitive détruisent le temps stratégique. Si la dissonance cognitive s'attaque à la cohérence du réel, la saturation par le spectacle vise une autre ressource essentielle, le temps long de la décision stratégique. Elle opère par un feu roulant médiatique continu, conçu pour fragmenter l'attention et épuiser la capacité de projection des acteurs internationaux. Le calendrier géopolitique récent offre une succession presque ininterrompue d'annonces tonitruantes, de crises déclarées et de retournements spectaculaires, chacune chassant la précédente de l'espace médiatique avant même que ses conséquences n'aient pu être évaluées. Ce chaos apparent n'est pas un accident de communication. Il fonctionne comme une véritable chaîne de production du spectaculaire où chaque crise devient un épisode d'une télé-réalité géopolitique mondiale destinée à occuper en permanence l'agenda politique et informationnel. Cette dynamique illustre concrètement l'obsolescence des unités collectives de décision. Prenons le cas de l'Union européenne. Comment élaborer une vision stratégique cohérente à l'horizon 2030 sur la défense, l'autonomie technologique ou la relation avec la Chine, lorsque l'essentiel du capital politique est absorbé par la gestion réactive du dernier choc transactionnel venu de l'extérieur? La saturation cognitive enferme les acteurs dans une logique de court terme, neutralisant toute capacité de planification et réduisant les ensembles politiques complexes à une juxtaposition d'intérêts nationaux divergents. C'est l'équivalent géopolitique du défilement morbide, doom scrolling, une succession axiogène d'événements qui empêche toute réflexion profonde et toute action préventive. Conséquences et résistance, l'urgence d'une souveraineté cognitive. Le résultat combiné de ces deux offensives est un environnement international où la prévisibilité, fondement de la diplomatie, des alliances et des investissements, se trouve profondément érodé. Ce climat favorise structurellement les régimes autoritaires, capables de contrôler plus étroitement leurs espaces informationnels et fragilise les démocraties libérales dont le fonctionnement repose sur le débat public, la délibération et l'existence de repères factuels partagés. Face à ce pouvoir brut de la perception, les réponses classiques, plus de dialogue, plus de sommets, plus de déclarations communes, apparaissent insuffisantes. Il devient nécessaire de penser une nouvelle forme de résilience, la souveraineté cognitive. Celle-ci ne se réduit ni à l'autonomie militaire, ni à la souveraineté technologique. Elle désigne la capacité collective d'un espace politique à protéger son environnement mental, à produire et à maintenir une narration stratégique autonome et à investir dans les infrastructures de la pensée, médias indépendants, recherche, éducation critique, capables de résister à la désorientation imposée de l'extérieur. Les débats européens sur l'autonomie stratégique prennent ici une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de capacités matérielles, mais de la préservation d'un espace de décision fondé sur le temps long, la cohérence et la délibération collective. La bataille des réalités. Le grand affrontement du 21e siècle ne se jouera pas uniquement avec des armements conventionnels ou des chaînes d'approvisionnement technologiques. Il se jouera dans la capacité des sociétés à définir ce qui fait la réalité, normalité et horizon commun. La Pax transactionnaliste ne peut s'imposer durablement que si ses cibles acceptent son rythme, son cadrage et sa logique de réaction permanente. La première forme de résistance est donc cognitive. Elle consiste à refuser l'enfermement dans l'urgence spectaculaire, à restaurer les conditions de la pensée stratégique et à réhabiliter le langage de la complexité du long terme. L'enjeu ultime est épistémologique autant que politique. Dans un monde saturé de signaux contradictoires, qui décide de ce qui est réel? De la réponse à cette question dépendra la nature de l'ordre international à venir, un monde de transactions brutales et de réalités fragmentées, ou un monde où le conflit, inévitable, demeure néanmoins encadré par des règles du temps et du sens. Fin de ce texte titré « Pax transactionnaliste ou quand la géopolitique devient une télé-réalité », signé Gilles Zedima et publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026. Texte publié dans Le Devoir du 26 janvier 2026.